Gloire à Dieu pour votre présence. On est encore là.
Amen.
Gloire à Dieu. On va continuer dans 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, il faudrait qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut.
Amen.
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Le titre de l'étude ce soir, c'est « En attendant ». Parce qu'on est encore ici, ça veut dire que si on est ici, c'est parce qu'on n'est pas enlevé. Quelle recherche. Amen. On a lu auparavant dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10, il était écrit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et on a vu ici dans le verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Et la semaine dernière, on a vu, Paul a amené un enseignement à l'église de Thessalonique à propos de ceux qui sont décédés dans le Seigneur et ceux qui sont encore vivants. Et je répète les deux versets dans 1 Thessaloniciens 4 et versets 16 et 17 qui est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On a vu la semaine dernière ce qu'il y avait avec ceux qui étaient sauvés, et là ici on parle un peu de ceux qui, nous on est épargnés, on est délivrés de la colère à venir. Ça va se faire lorsque Jésus va venir nous chercher. Si ça arrive à soir, on sait que ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants, on va les changer, puis on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je parle des gens qui sont sauvés. Il y a ceux qui ne sont pas sauvés. C'est une autre histoire. Eux, regardez, parce que là, Paul, il va nous parler de l'attitude de ceux qui ne sont pas sauvés, puis l'attitude qu'on devrait avoir comme enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés, en attendant cet heureux jour. Si, vous savez au verset 2, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'appartement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Là, on parle de ceux qui ne sont pas sauvés parce qu'après ça, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce vous vous surprenne comme un voleur. Puis, Dieu est en train de nous dire ici, ces gens-là, si on regarde aujourd'hui le monde, Le monde, ils vivent, pareil comme si rien n'était.
Amen.
Pareil comme si que la Terre, si on regarde souvent, on entend des documentaires ou des reportages, puis tel événement est arrivé, il y a 132 millions d'années. Vous êtes en entendant ça, je me dis, on s'entend-tu pour 130? Pourquoi 132 millions? De toute façon, c'est trop loin. L'homme est comme ça. Puis l'homme vit aujourd'hui, pareil comme si que la Terre va toujours exister. On s'inquiète aujourd'hui, regardez, ça monte aux barricades pour l'environnement, tout ça.
Amen.
Entre nous autres.
Amen.
Je me casse pas la tête dans les mains pour ça.
Amen.
Puis cassez-vous là pas non plus. Autrefois, mon esclave. Même moi, je tiens dans la poubelle bleue, dans le bac bleu, puis wow, il faut ça, c'est point final. Là. Je ne montrerai pas aux barricades pour ça. C'est pas mon inquiétude, ça. De qu'est-ce qui va arriver dans 100 ans ou dans 200 ans. Mon inquiétude, c'est ma vie aujourd'hui. C'est la vie de l'Église. C'est mon espérance. Parce qu'on a une connaissance, nous autres. Ces gens-là vivent, puis pas comme si rien n'était. Après, Dieu, là, c'est le dernier de soucis. Yeah. Moi, c'est ma priorité.
Amen.
Les gens du monde, ça ne l'est pas. Ils sont bien ben confiants, puis ça marche, les affaires, puis ils continuent comme ça, mais Dieu nous dit que ils vont avoir une petite surprise. Parce que si Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la colère à venir, ça veut dire qu'il va y avoir une colère, que Dieu va frapper la terre d'une colère, d'un jugement. Puis ça, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le monde, ne le verront pas venir, ça. Ça va être comme un voleur dans la nuit, c'est l'exemple qu'il donne. Deux comparaisons sur la manière que le jour du Seigneur va arriver pour ceux qui sont perdus. Comme un voleur dans la nuit. Quelqu'un qui se fait voler, là, vous savez comment ça se passe? Il se fait voler dans la nuit. Tu te lèves le matin et tu te fais voler. C'est fait. Jésus a parlé dans Matthieu 24, verset 37. Regardez bien ce qu'il dit. Et ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, ils ne se doutèrent de rien. Pensez pas que le monde, ceux qui sont perdus, là, qui s'imaginent, qui se doutent qu'un jour on va être enlevé. Ben non. Pareil comme dans ce temps-là, ils se doutaient pas que c'était pour arriver. Ils croyaient même pas. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en serait même à l'avènement du Fils de l'homme. Si on regarde ça comme faux, il doit avoir resté surpris. Comme celui qui se lève et s'est fait voler dans lui. C'est fait, puis il est trop tard. Il a commencé à mouiller. Ah, il doit avoir trouvé ça drôle, aussi. Il avait vraiment mouillé. Mais à un moment donné, ça devait s'en venir de moins en moins drôle. Parce que l'eau a commencé à monter, puis mouille, puis mouille, puis mouille. Puis mouille encore, puis continue de mouiller, puis arrête pas de mouiller. Puis l'eau monte. Là, il va se poser des questions. Mais à un moment donné, les voies se réfugient sur le toit des maisons. Tant qu'il y a de l'eau qui se fait, on monte. On se met à l'abri, mais à un moment donné, l'eau a atteint les maisons, on montait ces montagnes, l'eau a atteint les montagnes, l'eau a dépassé les montagnes. C'est clair. Pourtant, ils se doutaient de rien. Mais tant que c'est arrivé. Comme quelqu'un qui se fait voler dans la nuit, quand il se lève le matin, il s'est fait voler, il est trop tard. C'est aussi évident que ça. Ça va se faire la même chose avec le monde aujourd'hui. Parce que, au temps de Noé, c'est un jugement qui était amené sur la terre, à cause du péché. Après ça, Jésus, un peu plus loin, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17, 28, au verset 28, est écrit, donne un autre exemple avec Lot. Parce qu'il y a un jugement qui est amené sur les villes de Sodome et Gomorre. Pas parce qu'il faisait le bien, là. À cause de la dépravation de l'homme. À cause du péché. Et ce qui arrivait du temps de l'homme arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de soupe tomba du ciel, il les fit tous périr. Il en sera le même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Tant que l'homme était sorti de Sodome, la pluie de feu et de soupe est tombée sur les villes de Sodome et Gomorre, et les a détruits. Ils s'en attendaient pas. Aussitôt que Dieu va enlever l'Église, la colère de Dieu va venir. La même chose. Il compare aussi avec les douleurs de l'enfant, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Je vais vous dire dans le sens que je le prends parce que ils ne savent pas. Une femme enceinte, tu sais qu'elle va avoir des douleurs un jour. Ça rachète présentement, je ne pense pas trop. Là. Mais quand elle arrive vers 8 mois, qu'un gros bedon, elle va commencer à y penser. Mm. À un moment donné, ça va arriver. Mais la pensée, pour que c'est qui est écrit ici, je l'ai écrit, mais vous l'avez. C'est dans le sens que la colère de Dieu va les frapper, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et que le processus est irréversible. Elle ne peut pas rien faire, elle va enfanter. Tant qu'il arrive le temps d'enfanter, les douleurs surprennent la femme, puis elle va coucher, elle va enfanter. Tu peux pas arrêter ça, puis l'homme ne pourra pas arrêter ça, mais que le temps, la parole de Dieu arrive, ça va arriver. Tu peux pas échapper à ça. Il en est de même pour les perdus. Aussi vrai que la femme enceinte accouche, aussi vrai que la colère de Dieu va les frapper. Aussi vrai que ça. L'homme va être dans une quiétude, parce que il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, on reviendra plus tard plus en détail là-dessus, mais la pensée de ça, mais que l'Église soit enlevée, l'apparition de l'impie va se faire, l'Antéchrist. Puis, il va venir, il va amener une paix sur la terre. Puis, ça se dessine tranquillement, quand on regarde aller tout ça. Les pays se donnent toute la main, puis veulent travailler ensemble, puis tant qu'il arrive de quoi, ça se dessine tranquillement. Ça va se finaliser, mais que l'Église soit enlevée. L'Antéchrist va amener une paix, il va régler bien des problèmes sur la surface de la terre. Puis là, ça va être paix et sécurité. Il va régler bien des conflits, ça va être la paix, ça va être la sécurité. Puis là, l'homme sur la terre, là, ils vont être bien, ils vont être contents. Mais même qu'ils disent paix et sécurité, parce que ça va durer juste un certain laps de temps, pour être précis, c'est 3 ans et demi. Après ça, la colère de Dieu va déferler sur la terre. Lorsque l'homme dira paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Puis il va vous dire une chose, je ne veux pas être là. Puis je ne serai pas là. Puis je ne serai pas là. Ça, c'est pour les gens qui sont perdus. Convaincu que Noé est un prédicateur, puis tant qu'on a lui demandé ce qu'il est en train de faire là, parce qu'il va sûrement se moquer de lui, tant qu'il bâtissait son arche, puis Noé lui expliquait que Dieu était pour envoyer détruire tout ce qui avait souffle de vie dans, sur la terre, puis que je bâtissais un arbre pour être sauvé de la colère de Dieu. Il va rire de lui complètement, comme qu'on rit de nous autres. Tu sais, quand on dit aux gens qu'on va l'Église, juste de dire ça, puis ça se tient en eux. Puis tant qu'il dit que tu te vois deux fois par semaine, ben là, t'es sauté sur le crinque. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On s'en reparlera un jour de ça. On s'en reparlera un jour de ça. Mais que l'Église soit enlevée, là, puis que la colère de Dieu défraise cette terre, là, mais qu'on soit plus là, là, puis que Dieu frappe, comme qu'il a frappé au bout de Noé, comme qu'il a frappé au bout de Lot, c'est lui de Sodome et Gomorre, comme qu'il a frappé en un jugement sur le pays d'Égypte. L'homme, il se préoccupe pas de ça, mais ça arrive, ça va arriver pareil. La femme qui est enceinte, là, elle va donner des douleurs, la surprenne, pas la pente. Ils échapperont pas, il dit Dieu. Nous, on va y échapper. Nous, on va échapper à ça. Qu'est-ce qui est écrit? Il dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. Aussi simple que ça. Tant que tu crois en Jésus, tant que tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu es délivré de la colère à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une colère qui s'en vient. C'est aussi simple que ça. Nous, on le sait, ça. Mais les gens dehors, ça lui passe par de sa tête, comme ça lui passe à sa tête quand le Noé va dire son âge. Puis le monde qui riait de lui, qui s'en foutait, qui le traitait de n'importe quoi, ils n'ont pas échappé. Le déluge est arrivé pareil.
Amen.
Noé, il va être heureux.
Amen.
On va être heureux, tu sais. C'est palpable, plus que ça va, plus que c'est palpable, ce qu'on a. Je vous l'ai dit l'autre jour, là, on est éligible à être enlevé de notre vivant.
Amen.
On est éligible à ça. On est proche, là.
Amen.
Très proche. C'est juste une question de pas grand temps.
Amen.
C'est juste une question de pas grand temps. Moi, je me prépare,
Amen.
Je vais faire une petite valise, avec un billet vert. Je me prépare tranquillement. Mais vous, frères, le monde va être. Il échappera pas à ça. Ils échapperont pas à travers les yeux. Mais nous, en attendant, parce que c'est le titre de l'étude, en attendant, on est encore là. Mais tellement proche. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce groupe vous surprenne comme on va là. On le sait qu'on va être enlevé.
Amen.
On le sait, ça. On est tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Là, il fait distinction entre nous et ceux qui ont perdu, ceux qui sont dans le monde. Eux sont de la nuit, ils sont des ténèbres. Nous, on est du jour. On est dans la lumière. Fait que, on sait ces choses-là parce qu'on est dans la lumière. On voit. On sait. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons. La vigilance. D'être sobre. Il dit au verset 5-6, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, nous ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Et comme il est écrit dans 1 Pierre 1:13, c'est pourquoi, à cause de ça, là, à cause qu'on est dans la lumière, qu'on sait ces choses-là, de veiller, d'être sobre, c'est pourquoi il saignait les reins de votre entendement, soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens-toi prêt, veille! On a besoin de veiller. Continuellement. Dans Romains 13, au verset 11, il est écrit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut s'assigner là-dessus. On est plus proche du salut que tant qu'on a été sauvé. On s'approche de jour en jour. Amen. Au verset 13 de Romains 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, fornication, des querelles, des vanités. » Autrement dit, tout ce que c'est que la satisfaction de la chair, arrêtons de satisfaire la chair, servons Dieu. Parce que ce mot-là, il approche. Soyons sobres, veillons. Parce que c'est là que tu tiens en éveil. Il y a danger de satisfaire les convoitises de la chair. C'est ça qui t'endort. C'est ça qui t'éloigne de Dieu. Puis là, l'enseignement qu'il dit, il dit, veillez, soyez sobres. Puis là, Romains 13, 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Là, il y a cette chair-là. On y en donne-tu du temps? Trop! C'est ça le danger. C'est pour ça l'enseignement que l'apôtre Paul amène. L'être humain est fait comme ça. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On est bizarre, moi, je trouve. Cette chair-là qui nous mène, qui nous fait tant de troubles, puis qu'on s'abstine à en vouloir en prendre soin. On n'est pas redevable à la chair. On est redevable à l'esprit. Notre chair est notre ennemi. Les convoitises de la chair font la guerre à notre âme intérieure, à notre âme. Revêtez Jésus-Christ, qui est écrit. Dans Éphésiens 5:8, il est écrit autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, serait exposé à la lumière, on ferait attention, hein? C'est bien d'affaire qui ne s'en paraît pas, on ne le voit pas. Mais Dieu, lui, il voit.
Amen.
Mais qu'on marche comme si que ça serait évident autour de ça. Beaucoup de choses changeraient. Car le fruit de la lumière, dans Éphésiens 5:9, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et au verset 8 du texte qu'on vient de lire, il dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. » Avez-vous remarqué, moi je rends gloire à Dieu, ce verset-là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit ici? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Voyez-vous, on retrouve encore nos trois matériaux pour construire notre maison sur le roc. La foi, l'espérance, puis l'amour. En tout cas, j'étais en train de préparer ça, puis il y a une pensée qui m'est venue lorsque je préparais mon étude. Il n'y a pas personne ici qui va pouvoir me reprocher de ne pas avoir enseigné puis prêché là-dessus. Les trois choses qui sont nécessaires. La foi, l'espérance, puis l'amour. Pas d'autre chose. L'apôtre Paul nous dit ici, en attendant, il dit, nous qui sommes du jour, qui sommes sauvés, qui sommes dans la lumière, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. L'espérance du salut, le casque du salut, c'est bien important, ça. Tu sais, on a la foi, on veut combattre le bon combat, on a l'amour, on s'aime les uns les autres, on a l'amour de Dieu en nous. Mais pour continuer notre marche, le cas du salut, l'assurance du salut, c'est pas juste d'être sûr qu'on est sauvé, c'est dans le sens, l'assurance de notre salut, c'est l'assurance qu'on va être enlevé, changé, délivré de la colère à venir. Si on regarde, si on a tous les yeux fixés sur le jour où c'est que Jésus va venir nous chercher, ça change beaucoup de choses dans notre vie. À ce moment-là, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'amour, on l'a dans nos cœurs. Mais pour agir, pour marcher, pour combattre le bon combat, si on a toujours le regard vers cet événement-là, on a-tu perdu de vue à un moment donné cette espérance-là? À tous les jours, on pense sûr, si c'était aujourd'hui, on agit-tu comme si c'était aujourd'hui? Ça arrive-tu des fois qu'on l'oublie, ça? Amen. Si on ne l'oublierait pas, ça serait beaucoup plus facile. Amen. Parce que peut-être qu'aujourd'hui est la dernière.
Amen.
On ne le sait pas. Mais ça peut être la dernière.
Amen.
Parce qu'on est proche. Puis moi, quand je vois ce beau verset-là, il dit, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. C'est ce qui est nécessaire dans notre vie comme enfant de Dieu. Ces trois choses-là, ces trois éléments-là. Ça, avec ça, là, frères et sœurs, je vais vous dire une chose, vous ne vous trompez pas. Mais qu'on arrive au jugement de Christ, lorsque pas à savoir si on est sauvé ou pas sauvé, si on est au jugement de Christ, c'est parce qu'on est sauvé. Mais que notre œuvre soit éprouvée par le feu. Si t'as bâti avec l'or, de l'argent, puis des pierres précieuses qui sont la foi, l'amour et l'espérance, si t'as bâti avec ça, là, ta maison va rester debout. Parce que ça brûle pas. Mais c'est bâti avec du bois, du chaume puis de la paille. Ça brûle, ça. Il va rester rien. Fait qu'il y a trois choses qui sont nécessaires. C'est la foi, l'amour puis l'espérance. Pas plus que ça. Non, masse. Tu peux vivre une vie fructueuse spirituellement en mettant en application ça. De bâtir avec ces trois matériaux-là.
Amen.
Tu te trompes pas. Puis de voir, c'est pas juste pour saluer une étape dans notre vie spirituelle. C'est notre vie spirituelle,
Amen,
qui est pour matériaux-là. Puis là, l'apôtre Paul l'amène ici, au moment où c'est qu'on parle de l'enlèvement de l'Église, qu'on est proche, ben, on va dire une chose, persévérons. Et ayons les regards sur ce salut, cette délivrance-là, que Dieu va nous accorder lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Mm.
On ne réalise pas assez, peut-être. Moi, là, qu'est-ce que j'aime penser, qu'est-ce qui me fait bien du bien ces temps-là? c'est que on va être enlevé. Si bien qu'on revienne, on va être changé, c'est sûr.
Amen.
Puis on va vivre éternellement, là. Pour vivre sur cette terre ici, là, pour un million. Puis, vous imaginez-vous, pendant 1000 ans, on va vivre. On ne mourra plus, il n'y a plus de maladie. On va régner avec Christ. Et c'est pas tout le monde qui a droit à ça. Il y en a qui vont avoir droit à aller revenir. On en parlera plus tard, mais qu'on revienne avec ça, vous allez voir. On ira plus en détail de ce qui va se passer sur cette terre. On en fait claquer les genoux. Puis disloquer les hanches. C'est incroyable. Mais nous, puis c'est tout ce qu'on va avoir. Je me vois avec Christ, mais qui règne, mais qui est à Jérusalem. Je me vois là, moi. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais je sais que je vais être là. Ou peut-être, il va peut-être m'envoyer ailleurs. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il va peut-être me placer sur dirigeant sur une ville. Un pays, peut-être, je ne sais pas. Mais m'a régné avec Christ.
Amen.
Christ m'a régné sur toute la terre. Il va faire ma trappe au dragon, au serpentier, à Satan, au lion rugissant. Il va l'enchaîner pendant 1000 ans. La terre!
Amen.
Puis là, on va régner. Ça va à peine tout ça. C'est ça là, qu'on croit, c'est ça que je crois, c'est ça que Dieu nous offre. Sur le Seigneur, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. L'acquisition du salut. On va être comme lui, comme Christ. La même chose.
Amen.
À l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, là, c'est pas le même veilleur puis le même dormeur que tantôt, si on veille, ça veut dire qu'on est encore vivant, yeah. Puis si nous dormons, ça veut dire ceux qui sont endormis, qui sont décédés en Jésus-Christ, nous vivions ensemble avec lui. Et c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Encouragez-vous avec ça.
Amen.
Exhortez-vous avec ça. On a besoin d'en parler, de s'en parler. C'est pour ça que j'en parle. C'est important ça. C'est exhorter avec ces choses-là. Puis ça va arriver un jour. C'est tellement proche. Je ne sais pas si... la proximité de ça, je ne sais pas si vous vous dites, hein, bien honnêtement, répondez intérieurement, vous n'allez pas à main, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Croyez-vous que ça pourrait arriver là?
Amen.
Croyez-vous ça honnêtement, que ça pourrait arriver là?
Amen.
Moi, je vais le croire.
Amen.
Je vais se poser une question. J'ai fait mon incrédule. Dans le sens que. Ouais, mais Paul, il pensait d'être enlevé dans son temps, lui. Qu'il a pas été enlevé. Comprenez-vous ce que je veux
dire?
Mais. On peut dire aujourd'hui que la proximité est là. Bon, je vais vous faire une petite démonstration. Ça sera pas long. On va me servir de mon tableau. D'ailleurs, ça fait bien longtemps, mais je ne vais pas servir de ça. Je me rappelais même plus où c'était mes crochets pour accrocher les rideaux. Avant qu'ils s'en aillent, le tableau, je pouvais partir. Là. Bon, je vais faire une démonstration bien sommaire, on reviendra plus tard. On va en avoir plus tard plein des affaires à parler.
Amen.
Plus en détail. Amen. En attendant, je vais y aller bien sommairement. C'est juste pour vous montrer, moi, quand je dis que croire que ça peut arriver là, là, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire juste un petit dessin, puis ça ne sera pas trop trop long, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Pourquoi que je vous dis que ça peut arriver là, là? Parce que ça se peut arriver là. C'est pas un lit. Ça, c'est la création, ça. Il est écrit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce que, en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en l'appelant. Ça ici, là, c'est les six jours de la création. Dieu a créé toute chose en six jours, et le septième jour, il se reposa. N'est-ce pas? Ça veut dire que la création, ça a pris une semaine de sept jours. C'est clair? Facile à comprendre? Maintenant, l'histoire de l'homme, c'est pas 133 millions d'années. La parole de Dieu, elle nous dit quoi? Mais il y a une chose, bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire le temps de l'humanité est une semaine de 7000 ans. C'est la même chose. Un jour, c'est comme 1000 ans. Il y en a pas peur? Dommage. Si on parle d'Adam ici, comment tu fais pour écrire d'Adam? C'est non, mais bon. À partir d'Adam, aller jusqu'à la vie du Christ, il y a 4000 ans, ou 4 jours. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui est... On n'est pas là. On n'était pas là, donc je ne peux pas le... La parole de Dieu nous le montre. Même qu'on a déjà étudié, puis on est parti de là, on s'est venu ici, puis ça y ressemble bien gros à pas mal proche de 4000 ans, puis c'est pas mal proche. C'est Dieu qui le dit. Mais il y a un texte dans la parole de Dieu. Tu sais, Dieu, il met les choses, il cache les choses dans sa parole, mais c'est pour qu'on examine, qu'on regarde. Tant qu'il y a eu la Pâque, avez-vous remarqué l'agneau, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël, ils disent, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse, on prendra avec son plus propre voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ça ressemble à quelqu'un, ça, hein? Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. L'agneau, la promesse de Christ a été faite à Adam ici. 4 jours plus tard, ou 4000 ans plus tard, un jour c'est comme 1000 ans, Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Donc, entre Adam et Christ, il s'est passé 4000 ans. Là, je m'en viens de le voir ici, là, on va faire une déduction. On sait que Israël, lorsque Josué l'a fait entrer dans Canaan, c'était le repos, eux autres. Dans Hébreux 4, 9 à 10, c'est écrit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Comme Dieu, le septième jour, s'est reposé de ses œuvres, il y a un repos de sabbat, un sabbat réservé au peuple de Dieu, ce repos-là, il est ici. Durant le millénaire, la paix. Satan est lié. On règne avec Christ. On se repose de nos œuvres. Là, on travaille dur, d'arrache-pied. Mais à un moment donné, on prend ses ailes, là. On se repose comme Dieu s'est reposé pendant 1 an. Là, j'arrive où est-ce que vous voulez arriver. La semaine de ses jours ou 7 000 ans, de Adam à l'Escapris, il y a 4 000 ans, puis au bout, il y a un repos de 1 000 ans, ça fait 5 000 ans. 7 - 5, 2 jours, ça. Ou 2 000 ans. En quelle année on est? 2013. C'est à proximité ou c'est pas à proximité? Quand je vous dis que c'est proche, c'est proche. Moi, là, tout est prêt. Tout est prêt. Je vous dis pas ça juste pour vous encourager. C'est un fait. C'est biblique, ça. C'est le même que c'est. Dieu, il a tout arrangé, puis vous voyez, on est en 2013. Je me rappelle, moi, dans l'an 2000, la plupart d'entre vous, on était sauvés, on était dans l'église, à ce moment-là. On espérait être sauvés. Normalement, en l'an 2000, bingo, ça allait être là. À 2000 ans, 2 euros, ça arrivait. Mais tu sais, le calendrier, puis tout ça, puis comment ça s'est passé, il peut avoir eu des échappatoires au bout. Ça veut pas dire qu'on est dans le temps de Dieu, qu'on est vraiment en l'an 2013. Puis c'est sûrement ça parce qu'on est encore là. Mais il y a une chose qui est certaine, on est proche. Le temps nous le montre. Le temps où on est proche. Fait que, comme qui est écrit, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Le Seigneur est à la porte.
Amen.
Soyons sobres, veillons. Revêtons la cuirasse de l'amour. Et de la foi, et on le cache du salut. Parce que le Seigneur s'en vient.
Amen.
C'est petit que t'es pas sauvé, ça change rien dans ton esprit. Tu vas faire le saut parce qu'à un moment donné, moi je serai plus là, puis toi tu vas être encore là, puis la carrière de Dieu va venir.
Amen.
Mais, Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Si tu crois que Jésus est mort en toi, si tu crois la parole de Dieu, si tu crois que c'est que Dieu dit, hey, si c'est Dieu qui dit, moi j'y crois, accepte Jésus comme ton sauveur, tu auras fort d'aller le temps que Jésus-Christ. Mm-hmm.